VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et excellent réveil en votre compagnie Morgan Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du lundi 20 juillet 2015. À la une ce matin.
Le Burundi, à deux jours de la présidentielle, les pourparlers entre le pouvoir en place et ses adversaires ont été ajournés.
Burkina Faso, le président Michel Kafando a déchu hier son ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry.
Au Sénégal, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré s'ouvre aujourd'hui à Dakar.
Ici à Washington, le président Barack Obama reçoit aujourd'hui son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, à la Maison-Blanche.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter une résolution sur la levée progressive des sanctions à l'encontre de l'Iran.
Comme tous les matins, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Arrêt des négociations au Burundi. À deux jours d'une présidentielle controversée, les pourparlers entre le camp présidentiel et ses adversaires ont été ajournés sine die dimanche par la médiation ougandaise en raison de l'absence du gouvernement. Ces discussions visaient à sortir le Burundi de la crise qu'il traverse depuis fin avril. Claire Morin-Gibourg a joint Sylvestre Timbantunganya, ancien président du Burundi de 1994 à 1996. Il participait à ces discussions en tant que candidat indépendant au présidentiel, mais il a préféré retirer sa candidature.
Moi, mon analyse, c'est que peut-être il ne voudrait pas qu'on parle du calendrier électoral et du mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est ainsi qu'ils auraient choisi cette chaise vide, éventuellement pour manœuvrer en vue d'analyser à ce qu'ils ont prévu comme élection présidentielle. Élection d'ailleurs dont j'étais candidat, mais où nous avons décidé, moi-même et deux autres candidats, qui nous n'allons pas nous présenter compte tenu qu'elles ont été organisées sans respecter ce qui avait été préconisé par le sommet des chefs d'État. J'ai entendu dire, notamment de la part de la délégation gouvernementale, mais aussi du partisan de DTD, que nous aurions peur des élections. Moi, je suis un grand partisan acharné de la démocratie, mais une démocratie vraiment pluraliste, vraiment ouverte, mais aussi une démocratie qui soit responsable. Et tenant compte de tout cela, nous avons décidé de retirer nos candidatures en attendant que toutes les conditions soient réunies pour réellement organiser des élections pluralistes, inclusives, libres et transparentes, justes et équitables et donc démocratiques.
L'opposant Sylvestre Timbantunganya, ancien président du Burundi.
Burkina Faso, le président Michel Kafando a déchu hier son ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry. Mesure visant à satisfaire l'armée qui exige le départ des militaires du gouvernement. Le chef de l'État burkinabé cumule désormais les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Souvenez-vous, vendredi, il avait déjà retiré à son premier ministre Isaac Zida le ministère de la Défense. En revanche, le président a cédé le portefeuille des affaires étrangères à son actuel ministre délégué à la coopération régionale, Moussa Nebié, qui devient ainsi le numéro 3 du gouvernement. Les réactions à Ouagadougou en seconde partie d'émission.
Journée historique pour la justice africaine au Sénégal. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré s'ouvre aujourd'hui à Dakar. En détention depuis deux ans, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture commis sous son régime entre 1982 et 1990. Pour Clément Abaï Fouta, le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré, c'est le soulagement.
J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 et libéré le 7 mars 1989 à N'Djamena. J'ai passé 4 ans donc dans des conditions inhumaines. J'en ai beaucoup souffert. Je dormais à même le sol, je ne mangeais pas. C'était de la torture, c'était de la bastonnade. Et de pourquoi j'ai été obligé, n'est-ce pas, d'enterrer mes collègues pendant tout le temps de ma détention. Mais il faut dire que c'est un moment plein d'émotions. C'est une longue marche avec beaucoup de défis et je crois que c'est vraiment une satisfaction que je puisse voir Hissène Habré à la barre. Le lundi 20, pour moi, c'est un sentiment d'un aboutissement. C'est le couronnement d'une longue attente, le couronnement de beaucoup de sacrifices. Et je me dis que c'est une satisfaction pour nous, les victimes.
Clément Abaï Fouta, président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré.
Dans l'actualité ce week-end, 6 personnes ont été tuées samedi dans le centre du Mali, près de Mondoro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Des éleveurs peuls auraient tué des cultivateurs d'ogon, rapporte l'AFP. Hier, les autorités affirmaient que la tension restait vive et faisait état de coups de feu.
Côte d'Ivoire, le syndicat national des professionnels de la presse réclame l'abandon des poursuites contre 3 journalistes sénégalais inculpés pour violation du secret dans 2 affaires, dont un article sur le contingent de 2100 soldats que le Sénégal a décidé d'envoyer en Arabie Saoudite, engagé militairement au Yémen.
La force militaire de l'Union africaine en Somalie a annoncé hier avoir lancé 2 nouvelles offensives contre les insurgés islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda. L'objectif est de les déloger des zones rurales du sud du pays, nous dit Claire Morin-Gibourg.
À quelques jours de la visite du président Obama au Kenya, les forces de l'AMISOM montrent des dents en lançant l'opération Juba Corridor, destinée à déloger les Shabab des zones rurales du pays. Omar Sheikh Ismail, porte-parole des forces somaliennes, a confirmé à la VOA que 2 offensives se déroulaient dans les régions de Bay et Djedo, au sud et à l'ouest de Mogadiscio. Les troupes éthiopiennes tentent également de prendre le contrôle de Dinsor, qui abrite le quartier général temporaire des Shabab, mais l'opération a rencontré une certaine résistance, selon le correspondant de la Voix de l'Amérique de la ville de Baïdoa. Cette offensive intervient après l'annonce jeudi par les autorités kenyanes qu'un tir de drone américain a tué une 30aine de Shabab, dont plusieurs commandants dans le sud de la Somalie. La dernière attaque des Shabab contre l'AMISOM est la plus meurtrière, remonte au 26 juin contre une base de Lego au nord-ouest de Mogadiscio où une 50aine de personnes avaient été tuées, dont une majorité de soldats burundais. L'AMISOM compte quelque 21 000 soldats en Somalie provenant d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et d'Éthiopie.
Agenda africain cette semaine pour le président américain. Barack Obama reçoit aujourd'hui le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, à la Maison-Blanche. Et Barack Obama s'envolera jeudi pour Nairobi. Première visite en tant que président au Kenya, patrie de son père. Monsieur Obama se rendra ensuite dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où il sera le premier président américain de l'histoire à effectuer une visite.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre ce lundi le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez. Camille Grosdidier lève le rideau sur cette visite.
La date de la reprise des relations américano-cubaines était fixée au 20 juillet. Selon le département d'État, John Kerry et Bruno Rodriguez offriront une conférence de presse commune à l'issue de leur entretien ce lundi. Washington et La Havane ont officialisé début juillet le rétablissement de leurs relations diplomatiques qui va se concrétiser par la réouverture d'ambassades fermées depuis plus de 50 ans. La Maison-Blanche a rappelé vendredi que le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays est largement soutenu au Congrès, sauf par une minorité qualifiée de bruyante et d'attachée à des intérêts partisans. L'administration Obama n'entend pas se laisser démonter, a fait valoir le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, et va utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire avancer ce dossier. Néanmoins, le Sénat étant contrôlé par les Républicains, il se pourrait qu'il prenne tout son temps avant d'approuver le choix du président au poste d'ambassadeur des États-Unis à La Havane.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter aujourd'hui une résolution sur la levée progressive des sanctions à l'encontre de l'Iran. En échange, Téhéran devra respecter l'accord de Vienne conclu mardi dernier avec les grandes puissances sur son programme nucléaire. Texte visant à s'assurer que l'Iran ne se dotera pas de l'arme atomique. Le vote ne devrait être qu'une formalité puisque les membres permanents du Conseil, États-Unis, Chine, Russie, France et Royaume-Uni, plus l'Allemagne, ont mis au point l'accord et la résolution.
Et nous restons dans la région, dans la bande de Gaza. Des attentats ont détruit hier les voitures de 5 membres du djihad islamique et du Hamas, confrontés à la contestation grandissante de salafistes radicaux. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais des groupes affirmant soutenir l'organisation État islamique se disent à l'origine de plusieurs récents attentats contre le Hamas.
On passe à la Minute Éco avec Félix Sipassis Zimbro.
Le FIDA, Fonds international de développement agricole des Nations Unies, va initier avant la fin de cette année un troisième projet en RDC dans le secteur de l'agriculture. C'est le président du FIDA qui l'a dit vendredi au ministre congolais de l'Agriculture, Pêche et Élevage.
Nous voulons vraiment renforcer la collaboration, les coopérations du FIDA. Et vous avez vraiment des potentialités énormes au Congo pour devenir vraiment les bailliens de la nourriture en Afrique, pas seulement pour assurer la sécurité alimentaire congolais, mais aussi pouvoir aussi fournir des biens et des nourritures aux pays voisins du Congo.
Kanayo Mwanze, directeur du FIDA, en visite la semaine dernière en République démocratique du Congo. Des discussions ont démarré à la mi-juillet entre le gouvernement ivoirien et la compagnie américaine Mars. Objectif des autorités d'Abidjan, convaincre les géants de l'agroalimentaire d'investir 70 millions de dollars dans la cacao culture ivoirienne d'ici à 2020. Abidjan semble avoir réussi son pari, du moins à l'endroit de Jean-Christophe Flatin, président de la branche chocolat de Mars. Ce dernier a indiqué que son groupe continuera à investir dans le pays et comptait étudier les possibilités d'extension des capacités en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires burkinabés prendront part à l'Expo 2015 en septembre prochain à Milan, en Italie. En marge de l'Expo 2015, la Commission européenne organisera des rencontres entre les entreprises des pays d'Afrique subsaharienne et les entreprises européennes.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Félix. Plein feu sur les stades, les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Morgane.
En football, coup d'envoi du dernier tour de qualification pour la CAN des moins de 23 ans.
Les matchs allés ont débuté ce samedi à Libreville. Le Gabon, tenant du titre, s'est fait surprendre par le Mali. Défaite 1-0. Match retour dans deux semaines. Bonne opération également pour la Zambie. Match nul en Côte d'Ivoire, 0-0. Pour le reste, l'Égypte a corrigé l'Ouganda, 4-0. L'Algérie domine la Sierra Leone, 2-0. Service minimum pour le Maroc devant la Tunisie, 1-0. Le Nigeria a pris le meilleur sur le Congo-Brazzaville, 2-1. La CAN des moins de 23 ans, on le rappelle, aura lieu fin novembre au Sénégal. Les trois premières équipes seront qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016.
On enchaîne avec la Gold Cup et les États-Unis qualifiés pour les demi-finales.
Oui, Morgane, les Américains ont validé leur billet en surclassant l'équipe de Cuba 6-0 en demi-finale. Team USA, amenée par Clint Dempsey, auteur d'un triplé dans cette rencontre, va en découdre avec celle du Jamaïque, vainqueur d'Haïti 1-0. Et puis, avec vous, Morgane, on connaît la seconde affiche de cette demi-finale.
Le Panama jouera contre le Mexique. Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Bénin ce dimanche à Cotonou.
Le 12e de nom, il faut le préciser, avec la victoire d'étape de Yakubu Yameogo du Burkina Faso et le maillot jaune pour son compatriote Mathias Sorgho, très heureux que nous écoutons.
Dans l'ensemble, on peut dire que ça s'est bien passé. Voilà, parce que le Burkina Faso, ça s'est en sorti avec trois victoires d'étape, le maillot jaune, le maillot vert et le maillot de pré-jeu. Voilà, plus le maillot de meilleur des Africains. Sauf le maillot de combativité qu'on n'a pas eu, quelques maillots seulement qu'on a rasé. Les difficultés, c'est surtout le terrain. Le terrain du Bénin est ballonné. C'est pas comme au Burkina Faso, nous on a un terrain plat. Voilà, on est habitué à un terrain plat. Donc ça fait que les étapes comme la troisième étape et la quatrième étape nous a un peu fatigués.
Maillot jaune depuis la deuxième étape, Mathias Sorgho remporte donc la 12e édition de cette course avec 16 secondes d'avance sur le Français Jérémy Letu, vainqueur l'an passé, et 56 secondes d'avance sur le Sénégalais Malik Thiam.
Et puis le Tour de France, lui, est à sa 15e étape.
Effectivement, Morgane, André Grippel remporte au sprint cette 15e étape. C'est le troisième succès du coureur allemand sur cette édition 2015. Statu quo chez les favoris, Christopher Froome reste maillot jaune. Et puis du volleyball pour dire que la France a remporté la Ligue mondiale en battant en finale la Serbie 3-7-0. C'est la première fois que cette sélection remporte ce tournoi qui réunit les meilleures nations du monde de cette discipline.
La NBA, les résultats de la Summer League. Atlanta perd face à San Antonio, 68-75. Phoenix, New Orleans, 93-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Diriec en votre compagnie pour cette deuxième partie de notre émission. Première escale, le Burundi. Les négociations entre pouvoir et opposition ont été suspendues. Ainsi, la délégation gouvernementale et le parti au pouvoir n'ont pas participé aux réunions d'hier. Samedi déjà, les discussions avaient été particulièrement houleuses. Le pouvoir avait notamment accusé ses adversaires d'être des putschistes. En face, l'opposition reproche au camp présidentiel de vouloir gagner du temps pour ne pas aborder la question du report de l'élection avant le scrutin prévu mardi prochain. Claire Morin-Gibourg a joint Alain Nyamitwe, ministre burundais des Affaires étrangères, qui participe à ces discussions.
En réalité, on ne les a pas arrêtés. Comme le facilitateur l'a aussi dit, il y a eu une absence, c'est vrai, du gouvernement, mais absence ne veut pas dire arrêter le processus. Donc le processus continue. Comme le président Museveni lui-même l'avait dit, qu'on va négocier continuellement. Donc, il y a eu des raisons qui ont fait que le gouvernement ne soit pas là. C'est qu'il y avait un grand événement au Burundi qui était celui de l'élection des maires de toutes les communes du pays. Plus de 120 communes dans le pays. Par conséquent, et le parti au pouvoir et le gouvernement étaient tous mobilisés par cet événement.
Alors, les délégués du gouvernement ont accusé tous les opposants d'être des putschistes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de provocation là-dedans ?
D'abord, tous les opposants, ce serait une exagération. Deuxièmement, qu'une partie de l'opposition se soit alignée dans une logique de putsch, je crois que si on lit le document qu'ils ont sorti portant sur la création de ce qu'ils ont appelé le Conseil national pour la restauration de la Côte d'Arusha et de la Constitution, on se rend compte qu'il y a une réalité putschisante derrière.
Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'éviter d'aborder la question du calendrier électoral ?
Bon, encore une fois, je trouve que c'est un raccourci intellectuel dans la mesure où d'abord tout le monde sait très bien que le gouvernement a dû repousser les échéances électorales plus d'une fois suite à des recommandations de la région qui, dans tous les cas, a toujours dit que quoi qu'on repousse, on reste dans les limites de notre constitution. Par exemple, l'élection présidentielle ne peut pas se passer en une période qui soit moins d'un mois avant la fin de l'échéance. Or, l'échéance, c'est le 26 août. Par conséquent, la dernière date, c'est le 26 juillet.
Allez-vous être aujourd'hui de retour à la table des négociations ?
Si on nous appelle pour encore discuter, je pense que le gouvernement saura répondre avec toute la responsabilité qui lui est reconnue dans ces discussions. Nous sommes ouverts, nous restons ouverts pour qu'on discute des questions qui seront de toute manière établies de commune entente avec la partie adverse, c'est-à-dire l'opposition.
Alain Nyamitwe, ministre des Affaires étrangères du Burundi. Et nous partons maintenant au Burkina Faso. Le président Michel Kafando tente de remettre la transition sur les rails. Hier, il a déchu son ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry, afin de satisfaire l'armée qui exige le départ des militaires du gouvernement. Le chef de l'État burkinabé cumule désormais les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Souvenez-vous, vendredi, il avait déjà retiré Isaac Zida du ministère de la Défense. En rupture avec ses frères d'armes, il conserve toutefois son poste de Premier ministre. Alors que pensent les Burkinabés de cette décision ? Notre correspondant Zoumana Wonogo a promené son micro dans les rues de Ouagadougou.
La semaine passée aura été marquée au Burkina Faso par la sortie du chef de l'État, le président de la transition, qui, après avoir reçu le rapport du cadre de concertation des sages, a décidé de maintenir le premier ministre Yacouba Isaac Zida à son poste, mais en lui enlevant le ministère de la Défense. Il a aussi décidé de scinder le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité en deux entités différentes, la Sécurité et l'Administration territoriale. Au même moment, le Conseil nationale de la transition a pris une résolution de mise en accusation de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré et certains de ses ministres. Que pensent les Burkinabés de toutes ces décisions?
Marcel Tankono, M21, nous saluons à sa juste valeur le discours du président du Faso. Un grand discours parce qu'il y a de la sagesse à l'intérieur. Il a appelé tout le monde à regarder vraiment l'intérêt supérieur de la nation. Et il a pris sa décision de reprendre des mains du Premier ministre le ministère de la Défense. Il scinde également le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité en deux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous sentons que la tension s'abaisse. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, en tant qu'acteurs quand même, nous accompagnons toujours cette transition jusqu'au soir donc du 11 octobre 2015. C'est en ce moment-là qu'on peut se réjouir et faire un ouf de soulagement.
Madame Safouratou Ouédraogo, commerçante à Ouagadougou. Je pense que le chef d'État a bien fait de maintenir le Premier ministre parce qu'il nous reste seulement 3 mois pour terminer la transition. Je pense que ce ne serait pas sage de se défaire de son Premier ministre. En 3 mois, je ne sais pas quelle nouvelle personne pourrait faire mieux que ce qui a été déjà fait. Concernant la mise en accusation du chef de l'État, Blaise Compaoré, et de certains de ses ministres, cela est tout à fait juste. Toute personne ayant spolié ce peuple doit répondre.
Je m'appelle Lassina Sawadogo, je suis jeune fonctionnaire. Je pense qu'à 3 mois des élections présidentielles, c'était la décision qui, à mon avis, devait être prise pour sauver déjà ce qui peut être encore sauvé. Et puis, en deuxième position, il y a cette inculpation de Blaise Compaoré et de tout son gouvernement. Vous savez, c'était une exigence un peu de l'insurrection. On pensait que ça allait être les premières mesures de l'insurrection dès que Blaise Compaoré est parti. On a tergiversé un peu, on a traîné. Et puis, on a vu que l'ex-parti majoritaire semblait avoir trouvé un second souffle et puis même était rentré dans une sorte de zèle après la décision de la CEDEAO. J'ai envie de dire que c'est maintenant que l'insurrection commence à donner ses premiers fruits parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps.
Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'invention de la culture, membre de la coalition nationale contre la vie chère. Ce que les organisations de la société civile, les syndicats en particulier, ont demandé, c'est que les irruptions répétées du régiment de sécurité présidentielle sur la scène politique prennent fin et que sa dissolution soit effective parce que par 3 fois, il y a eu des remous et la transition a été mise en difficulté. La mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré pour haute trahison, si la haute cour de justice effectivement se saisit des différents dossiers, il y aura en tout cas justice. C'est sûr que les bourreaux d'hier ne pourront pas revenir sous d'autres manteaux pour siéger encore au nom du peuple, ce même peuple qu'ils ont toujours brimé depuis plus de 20 ans.
La correspondance de Zoumana Wodogo, le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En République démocratique du Congo, la province du Katanga est divisée en 4 depuis la semaine dernière. Cette mesure a été prise suite au rapport de la commission d'installation des nouvelles provinces sur l'état des lieux de la province de la commission. Donc, nous écoutons maintenant la correspondance de Narval Mabila.
C'est conformément au prescrit de la loi que la commission d'installation des nouvelles provinces démembrées a déposé et rendu public son rapport de mission de plus de 640 pages sur l'état-lieu de la province du Katanga qui est démembrée en 4 provinces. Et cela a été au cours d'une séance plénière extraordinaire de l'Assemblée provinciale qui est la toute dernière en tant qu'institution. Voici l'extrait des grandes lignes du rapport lu par le président de la commission, M. Biaza, qui est un ancien directeur de la province du Katanga.
La commission s'est fait le devoir de formuler quelques recommandations acquis des droits pour donner plus de chances et de succès aux nouvelles provinces qui, d'après les prescrits de la loi, vont venir en instance dans quelques instants. La présentation du rapport par la Commission et sa prise d'acte par l'Assemblée provinciale existante enclenche les processus d'éclatement de la province.
L'installation des institutions des nouvelles provinces dans un délai de 15 jours. Pour certains, semble mal bien apprécié. Telle est l'expression de certaines réactions des députés provinciaux.
Le démembrement, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est la loi qui a décidé. Et nous devons avoir la culture de respecter les lois.
Le moment est très douloureux. Nous avons vécu ensemble depuis la colonisation et se séparer, ce n'est pas agréable. Mais ce que je peux demander à tous les Katangais, c'est qu'il n'y ait pas de tribalisme.
Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, qui a réceptionné le rapport, a relevé quelques faiblesses de l'état financier de la province du Katanga, qui ne recevait que de la part du gouvernement central 6% au lieu de 40%, alors que la constitution a un caractère sacré, tout en interpellant les autorités de Kinshasa.
Nous ne voulions pas de nouvelles provinces, mais nous avons obéi à une loi qu'on ne doit pas violer. Et cette loi s'appelle la Constitution. C'est la Constitution qui nous amène à nous éclater aujourd'hui en quatre, ici à Lubumbashi. Moïse Katumbi-Chapoy dit, c'est la Constitution, wawa.
Pour certains, ce sont des moments lancinants de perdre l'histoire de la mythique identité katangaise. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Au Gabon, le séjour de l'attaquant du Barça, Lionel Messi, a été diversement apprécié. Sur les réseaux sociaux, certains se sont interrogés sur le sens de cette invitation dans un pays traversé par des grèves à répétition. Notre correspondant sur place, Jean Rovis Dabani, s'est rendu à Port-Gentil, capitale économique, où la star du football a posé symboliquement la première pierre pour la construction d'un stade devant abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays organise en 2017. On écoute son reportage.
La visite ce week-end de Lionel Messi a attiré plus de critiques que de louanges. Libreville bruissait de rumeurs durant le séjour libreville de quadruple ballon d'or. Les Gabonais se sont interrogés sur le sens de cette invitation, mais surtout sur le montant qu'aurait touché la star du football. Car certains ont encore en mémoire les 2,5 milliards de francs CFA qu'aurait touché le roi Pelé, alors invité en 2012 durant la Coupe d'Afrique des Nations que le pays a co-organisé avec la Guinée équatoriale. C'est sur un vaste terrain sablonneux que la cérémonie de pose de la première pierre du stade de Port-Gentil s'est déroulée. Messi, dont c'était la première visite dans le pays, a signé quelques autographes sur les maillots de son équipe portés par ses fans, à l'image de Christian et ses amis qui n'en reviennent toujours pas.
On a vu Messi, vraiment, on est vraiment contents. Et Messi nous a signé sur notre drapeau qu'on est sur le cou là. Et sur le t-shirt, Messi nous a vraiment filmé, il a bien signé, il n'y a pas de problème, on a vu Messi.
Merci au président Ali, nous avoir fait venir Messi ici là. Merci beaucoup.
Nathanaël, 9 ans, qui rêve de devenir comme Messi, est lui aussi ravi.
Parce que c'est un bon joueur, il joue bien et mon rêve à moi c'est venir comme Yola Messi.
Devant les chefs traditionnels, le footballeur a procédé symboliquement à la pose de la première pierre après le président Ali Bongo qui reconnaît à Messi les qualités, je cite, d'un homme d'honneur qui tient parole.
Lionel Messi et moi nous sommes rencontrés il y a maintenant quelques années à Barcelone. Monsieur Messi m'avait indiqué qu'il viendrait me rendre visite à Libreville et que c'est donc une promesse qu'il m'avait faite. Et il a tout simplement, un homme d'honneur qu'il est, tenu sa promesse. Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait voir Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer.
Mais pour Christ, la visite du footballeur argentin n'était pas une priorité dans un contexte marqué par des problèmes sociaux.
Certes, c'est le meilleur joueur, mais vu ce que la nation vit en ce moment, je ne vois pas du tout pourquoi il est arrivé. Juste pour poser une sainte pierre, bon, on pouvait appeler n'importe qui pour la poser, mais déplacer Messi, c'est de l'argent balancé.
D'une capacité de 20 000 places, le nouveau stade est prévu pour accueillir les premiers matchs test de la CAN 2017 dès novembre 2016, a expliqué la présidence gabonaise dans un communiqué. Jean-Revis Dabani, des retours de Port-Gentil, Veilleux Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde est assurée par Anne Albertson, Morgan Diriek à la présentation. Excellente journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.